Ambiance Africa.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.
Merci de nous rejoindre et direction le téléphone d'Africa Radio pour accueillir Eva Barra, les technocoaches en fusion culturelle. C'est une discipline axée sur le développement personnel et l'estime de soi dans un contexte de biculturalité. Et nous avons entamé une série concernant nos enfants et ce jour, ça va être tout le cas. Eva Barra, merci de nous rejoindre. Comment ça va?
Je me porte bien et toi, Aïssa, comment tu te sens?
Oui, ça va très bien. Alors, à l'occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, tu tenais à parler de ce sujet à travers des questions, notamment l'observation des parents, quand s'alarmer, qui interpeller, comment aider son enfant, son frère, son neveu, sa nièce dans cette situation d'autisme. Alors, allons-y. Pourquoi d'abord ce sujet, Eva Barra?
Alors déjà, c'est un sujet qui me tient très à cœur, étant moi-même maman d'enfants éblouissants. Donc moi, je parle d'enfants éblouissants plus que d'autisme, parce que justement, il y a plusieurs niveaux dans l'autisme.
Ouais.
Et étant personnellement concernée par ce sujet-là, eh bien, j'ai été confrontée à la représentation pluriculturelle, la représentation, comme on dit, de biculturalité. Il y avait la représentation des Occidentaux sur ce que je vivais avec mon fils, et il y avait la représentation des Afro-descendants de ce que je vivais avec mon fils. Donc, autant dire que c'est deux regards qui sont très différents,
ouais,
sur une même situation, et que nombreux sont les parents qui vivent cette situation-là et qui se retrouvent entre deux feux, entre deux prises de position, et parfois on se retrouve tétanisé face à la situation qui dépasse notre enfant et nous encore plus.
Absolument, donc allons-y donc, Eva Barra. Alors comment on commence?
Alors je dirais comme tu l'as si bien repositionné dans les questions, c'est déjà quand s'alarmer. C'est vraiment déjà qu'est-ce que c'est que l'autisme? Eh bien l'autisme, c'est une façon d'être au monde. J'aime le présenter sous cet angle-là.
C'est pas une maladie.
On parle d'handicap, on parle de maladie. L'autisme, c'est avant toute chose, c'est une façon d'être au monde, c'est une façon d'interagir qui est singulière. Donc les enfants, du coup on parle souvent d'enfants autistes, mais en fait les enfants autistes deviennent des adultes. C'est important de le dire également. Donc les êtres porteurs de ce qu'on appelle le spectre autistique, eh bien c'est des individus qui ont une façon de se mouvoir assez singulière.
Ouais.
Ils ont un regard sur le monde qui va être différent d'une autre. Ils ont des importants qui vont être différents de la généralité. Ça ne fait pas des enfants moins curieux ou moins intelligents.
Déjà, ça, c'est, et des fois c'est l'inverse, et des fois ça peut être pour certains l'inverse, ou d'autres.
Exactement.
Sensibilités ou des sens qui sont plus développés que la moyenne.
C'est exactement ça, c'est que finalement ils ont des prismes qui vont être différents des nôtres, donc c'est important d'aller prendre le temps de les observer. Donc la première chose, c'est justement l'importance, le rôle premier, c'est les parents. Donc ça va être les parents, ça va être à eux, ça, c'est à chacun d'entre nous, je me mets dedans, c'est à chacun d'entre nous de prendre le temps d'observer nos enfants. Maintenant, j'ai des parents que j'accompagne justement autour des enfants éblouissants et qui me disent, oui, quand il était petit, j'étais déjà inquiet, je me posais déjà des questions, mais on m'a dit que chaque enfant avait son rythme, on m'a dit que c'était normal ou que je m'inquiétais trop. Moi, j'invite les parents à s'écouter. C'est-à-dire qu'on a la courbe de croissance qui nous est donnée de manière occidentale ou africaine.
Oui.
Et à la fois, il y a le sixième sens des parents quand ils voient qu'il y a quelque chose qui n'est pas, dans l'évolution de la généralité des enfants.
Comme le retard de langage, par exemple.
Totalement,
oui.
Exactement. Donc du coup, si on doit situer un peu, ce serait le retard du langage. Ça peut être le retard de la mobilité, donc
ouais,
ça peut être des enfants qui vont marcher tard ou qui vont rester assis très longtemps avant de se mettre à quatre pattes, d'avancer à quatre pattes. Donc c'est l'observation des parents, c'est vraiment d'observer tout ce qui leur semble important. Moi, je les invite à avoir un cahier, à avoir un bloc-notes dans lequel recueillir toutes leurs observations, avec des dates, avec l'âge de l'enfant, au fur et à mesure, pour voir sa progression et le regard du parent, en fait, sur la situation de son enfant.
Ouais.
Donc déjà, c'est le rôle premier, ça va être l'observation des enfants. Maintenant, si les choses se débloquent dans les semaines à venir, eh bien, ce cahier-là, on va le ranger. Et si ça ne se débloque pas et qu'on doit aller voir des spécialistes, on a de la matière. sur lequel s'appuyer. Mmh. Parce que bien souvent, quand on arrive en observation, que ce que je parle là pour le coup ici en Occident, eh bien, on nous demande de relater des faits. Les personnes vont observer l'enfant, mais une demi-heure, une heure. Ils n'ont pas le temps de voir l'enfant dans sa globalité.
Ouais.
Donc quand ils ont en phase 2 des parents qui ont pris le temps d'observer leur enfant, de prendre des notes, d'avoir des exemples bien précis, quand on peut, je dis bien dans la mesure du possible, faire des vidéos, c'est beaucoup plus parlant. Parce que l'enfant, il est dans son environnement naturel, il est en sécurité, il est en confiance. Donc ce qu'on voit sur la vidéo est authentique.
Ouais.
Les propos du parent sont authentiques également. Donc étape 1, c'est vraiment l'observation du parent, la prise de notes, faire des vidéos autant que possible, les conserver bien sûr et puis faire signer un document pour qu'elle ne soit pas réutilisée derrière. C'est important de sécuriser aussi son enfant. Ensuite, l'étape 2, eh bien, ça va être vraiment d'aller se poser et de voir au niveau du couple parental.
Oui.
La responsabilité de chacun, le couple parental, le regard de l'extérieur. Parce que là, bien sûr, eh bien, il y a le prisme occidental, mais il y a également le prisme africain, comme je vous l'ai dit. Dans mon cas personnel, il y avait deux sons de cloche qui étaient différents. Je vous parle d'ici en Occident, mais j'ai également voyagé. Et du coup, quand je vais sur le continent africain, c'est un public qui m'interpelle particulièrement et envers lequel je me sens missionnée. Donc, je me rends sur des structures qui accompagnent des enfants et des familles avec des enfants porteurs de troubles autistiques.
Ouais.
Et ils expliquent qu'ils sont dépassés parce qu'il y a deux mondes. Il y a entre ces centres de soins qui essayent, en tout cas, d'apporter un prisme d'explication de ce que vive l'enfant.
Ouais.
Et il y a toute la partie culturelle où finalement, eh bien, on cherche à guérir ses enfants. Donc quand on dit qu'on cherche à guérir, c'est qu'en fait, on explique aux parents que l'enfant est dans cet état-là, à un retard de développement, à un retard de langage ou à des tocs, des mouvements, enfin des gestes saccadés et brusques, répétitifs, parce que c'est dû au mauvais œil. Parce que c'est dû à du maraboutage,
voilà.
Parce que c'est de la sorcellerie, parce que ta belle-mère ne t'aime pas, etc., etc. Donc finalement, ces parents-là, eh bien, on leur ôte le temps de faire le deuil, en fait.
Ouais.
Le temps de faire le deuil et d'accepter la différence de leur enfant, puisqu'ils sont en train de courir derrière une réparation, une guérison. Et c'est des parents, c'est des familles qui dépensent l'argent qu'ils n'ont pas. Dans des soins, dans des remèdes pour essayer de guérir l'autisme. Et comme tu l'as si bien dit, c'est très important de le situer. L'autisme n'est pas une maladie. Donc c'est une façon d'être au monde, une façon d'interagir avec le monde. Donc que ce soit justement qu'on soit sur le continent africain ou qu'on soit afrodescendant vivant en Occident, on est confronté au quotidien à cette double culture. On est confronté au quotidien à toute cette partie traditionnelle, superstition. Pour le coup, quand on a un enfant différent, il est important d'aller d'abord sur du rationnel. Est-ce que c'est une maladie? Oui, non. Est-ce que ça se guérit? Oui, non.
Alors,
et dans ces cas-là,
Justement, qui interpeller dans ces cas et comment aider donc son enfant, son frère, son neveu, sa nièce qui est dans cette situation?
Alors, qui interpeller, ce serait dans un premier temps justement, c'est de pouvoir. Moi, j'invite à faire un entonnoir et à partir en ordre d'élimination. Donc, est-ce que c'est une maladie? Oui, non. Donc, la première personne à interpeller pour une maladie, ce serait un médecin. Ce serait d'aller voir un médecin et de pouvoir poser pour savoir est-ce que l'enfant est en situation de maladie, oui ou non.
Ouais.
Si c'est pas une maladie, eh bien justement, qu'est-ce qu'il a? À quoi c'est dû son retard de développement? À quoi c'est dû son manque de mobilité? Donc là, il y aura peut-être une batterie de tests et d'analyses à faire. Si on est en Occident, si on est sur le continent africain, il y aura un temps d'observation à mettre en place également et il y aura également des analyses à faire. Et ensuite, une fois que la maladie elle est écartée, une fois que la santé n'est pas en jeu, eh bien là, on va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle de la rééducation.
Ouais.
Et là, qui est-ce qu'on interpelle? Eh bien, je dirais, on interpelle justement tout l'aspect de la petite enfance et de la différence. Donc, en Occident, la première étape, selon l'âge de l'enfant de 0 à 6 ans, on interpelle un organisme qui s'appelle le CANSP.
Ouais,
Donc, en fait, le CANSP, c'est à MPS.
D'accord, oui.
SP, pardon. Et du coup, le CANS va mettre en place un temps d'observation. Et le temps d'observation, c'est que du coup, on va rencontrer ils vont rencontrer l'enfant sur un certain nombre de séances, un mois et demi, ça dépend de leur disponibilité. Et ensuite, ce temps d'observation, il va être observé par un pédopsychologue, oui. Il va être observé par une orthophoniste qui va voir justement comment il s'exprime verbalement, par un éducateur qui va voir justement comment il interagit, etc. Donc ça va être des professionnels autour de l'enfant et autour du développement cognitif et sensoriel de l'enfant qui vont l'observer et qui vont pouvoir se positionner à la fin de l'observation et dire voilà ses points forts, voilà ses points faibles. C'est important parce qu'il a des points forts.
Oui.
Et à partir de là, une fois qu'on a ces éléments-là, eh bien, on va pouvoir...
voir un peu l'accompagnement adapté à la situation.
Ça. Exactement, on va pouvoir voir justement quel accompagnement va être le plus adapté pour l'enfant. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de démissionner en tant que parent. On l'a évoqué la semaine dernière quand on a parlé d'éducation et du rôle de chacun. Il s'agit justement d'aller chercher des billes auprès de ces professionnels sur comment, même moi, à la maison, je peux faire pour que mon enfant eh bien, s'épanouisse.
Oui, parce qu'en fait, c'est des situations qui peuvent aussi fragiliser les couples et qui souvent les fragilisent, hein, d'ailleurs, Eva.
Exactement. Bah, c'est des situations où les chiffres parlent un petit peu, mais bon, du coup, ils ne sont pas encore arrêtés, donc je ne les annonce pas. Mais il y a très peu de couples qui restent en couple après la découverte d'un enfant en situation de handicap.
Donc, du coup, pour le parent qui reste, c'est donc du coup un petit peu
c'est plus difficile. C'est plus compliqué. Assez difficile. C'est assez difficile parce que justement, y a une séparation à gérer, il y a la différence de cet enfant-là, il y a tous les soins à mettre en place, si soins il y a à mettre en place, il y a l'acceptation de tout sur cet environnement qui est chamboulé. Et dans nos cultures, parce que justement, comme je dis, j'accompagne des parents dans le cadre de la prise en charge de l'éblouissance de leur enfant et de la compréhension de la différence de leur enfant. Et le plus souvent, dans la communauté afrodescendante, ce qui ressort le plus, eh bien, c'est le regard de la famille.
Ouais.
C'est le regard de la famille, c'est le regard de la belle famille. Et donc, ça me paraît important d'aller vraiment sur l'aspect santé, d'aller vraiment que la personne puisse être rassurée sur le fait que, en fait, il n'y a pas de responsable à chercher. Il n'y a pas de coupable à chercher. L'enfant, il est tel qu'il est.
C'est comme une loterie, en fait. Hein. C'est, voilà, quoi.
C'est exactement ça. C'est qu'en fait, ils naissent de plus en plus nombreux. Maintenant, moi, j'aime à croire que c'est des enfants qui nous invitent à nous transformer. Des enfants qui nous transforment. Des enfants qui nous invitent à revoir le monde. Parce que, comme je dis, justement, ils ont des points forts. Et dans leurs points forts, justement, ils ont des sens qui sont davantage développés. Ils sont davantage connectés à la nature, davantage connectés aux émotions.
Ouais.
Donc, ils ne nous écoutent pas. Par contre, ils nous ressentent.
Et donc, on parlait de qui interpellait les structures. Et alors, sur le continent africain, c'est l'occasion de saluer également les associations.
Totalement.
Qui œuvrent.
Il y a énormément d'associations sur le continent qui œuvrent justement pour accompagner les enfants en situation dite de handicap de manière générale et de plus en plus se spécialisent dans l'accompagnement d'enfants en situation d'autisme parce qu'ils se rendent compte que c'est une singularité, c'est une particularité et surtout plus tôt c'est détecté, plus tôt l'enfant a la capacité de vivre en communauté. Donc il ne s'agit, à mon sens, en tout cas, l'objectif à viser, ce n'est pas de guérir ces enfants-là. C'est de faire en sorte qu'ils soient différents, de comprendre leurs différences, d'accepter leurs différences et de leur apprendre à vivre au contact d'autres personnes. Donc ça, il y a une urgence dans le temps. C'est-à-dire que plus tôt, justement, on va aller le chercher dans son langage à lui, plus tôt on va lui parler dans sa langue. Si c'est un enfant qui est visuel, et on lui parle de manière visuelle. Si c'est un enfant qui est auditif, on lui parle de manière auditive. S'il est émotionnel, on lui parle dans une langue émotionnelle. Donc ça s'apprend et c'est là-dessus que j'accompagne des parents. Mais il faut aller chercher l'enfant dans sa langue. C'est comme si moi, demain, j'arrive, je ne sais pas, en Asie. Eh bien, je ne vais pas leur demander de s'adapter à moi. Je vais d'abord essayer d'apprendre leur langue et ensuite, je pourrai leur apprendre des choses de moi. Même manière, faut d'abord aller chercher l'enfant. Il faut d'abord aller apprendre son langage et ensuite, petit à petit, eh bien, lui présenter le nôtre de langage.
Alors, je pense qu'on a tiré pas mal de fils. Alors, je suppose qu'il y a également des groupes de parole sur les réseaux sociaux. Oui.
Exactement. Ouais. Il y a des instances. Enfin, en tout cas, moi, j'interviens énormément autour de cette thématique-là de l'handicap et de l'autisme. Je suis sollicitée pour savoir justement quand est-ce qu'on s'inquiète. Mon enfant, il marche pas. Il a tel âge. Est-ce que c'est grave, Eva, ou pas? J'essaie de répondre autant que possible. En tout cas, sur les réseaux, il y a beaucoup de pages qui parlent de l'autisme. Sur Facebook, principalement, il y en a beaucoup qui parlent de l'autisme et de la sensibilisation et surtout de la courbe de croissance pour qu'on puisse, en tant que parents, identifier à peu près quand est-ce qu'on s'alarme. Ensuite, au niveau des associations, c'est important de regarder au niveau de son département. Il suffit de taper autisme et son département. Il y a des associations partout, sur l'Hexagone et sur les DOM-TOM. En Afrique également, il y en a de plus en plus.
Il y a l'association Cœur Bleu, d'ailleurs, que je voulais saluer parce que j'avais reçu sa présidente pour parler de leurs actions, justement, à l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Donc, Cœur Bleu qui œuvre en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, également pour les auditeurs qui nous écoutent sur 91.1 du côté d'Abidjan. Eva Barra, merci du fond du cœur pour ce sujet. Je rappelle que tu es ethno-coach en fusion culturelle, cette discipline axée sur le développement personnel, l'estime de soi dans un contexte de biculturalité. Tu nous en dis un petit peu plus avant de nous dire où est-ce qu'on te retrouve sur Internet?
Alors oui, du coup, l'ethno-coaching, c'est vraiment l'art d'écouter toutes les cultures avec lesquelles on interagit, les cultures que nos parents nous ont transmises et qu'on porte à l'intérieur de nous, et la culture dans laquelle on habite, le pays dans lequel on vit, dans lequel on a migré, et qui a forcément des répercussions sur nos choix, nos décisions. Parfois, ces deux cultures, ou ces trois cultures, ces cinq cultures s'entrechoquent. Mon rôle à moi, c'est de pacifier tout ce qui se passe à l'intérieur pour mettre cette richesse culturelle au service de nos visions, de nos différents projets. Et ça, je le fais à travers du coaching individuel, collectif ou des conférences.
Sur Internet, il y a un site dédié www.evabarracoach.com et elle est sur tous les réseaux, Facebook, Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour vos besoins. Merci beaucoup, Eva. On se retrouve vendredi prochain.
Avec joie. Merci beaucoup, Eva.
Merci.
Ambiance Africa.
Ambiance.
Ambiance Africa.
Africa.
Avec Aïssa Cham.